Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, il est question de Zachée, un homme qui finira le plus heureux du monde. Et vous verrez cette progression, cette finalité qui ne lui sera pas enlevée. Il aura vraiment toute raison de pouvoir vivre pleinement ce moment. Et ce moment-là, on le souhaite. On le souhaite d'une manière renouvelée à tous, mais aussi on le souhaite à toute personne qui pourrait démarrer dans la vie chrétienne, qui pourrait venir pour l'une des premières fois, parce que notre Seigneur se tient à la porte des cœurs, se tient là dans peut-être l'inconnu, peut-être pour certains, mais tellement connu de Dieu, tellement connu et voulu de Dieu, et qu'il est là encore pour nous aider à le voir et à vivre de sa présence. Luc 19, verset 1er, Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. » car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur !» Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Pour certains, ce texte, nous le connaissons bien. Nous le connaissons bien, et de telle manière qu'on aurait l'impression que Zachée fait partie de la famille. Fait partie de la famille et que parfois, on aurait pu peut-être se retrouver même à sa place. Alors vous allez me dire, on n'est pas forcément tous de petite taille. Mais s'il arrivait à monter dans cet arbre, je pense que c'est pas forcément parce que il était que de petite taille. À votre avis, pourquoi était-il monté dans l'arbre? Pour pas qu'on le voie. Voilà, il voulait être spectateur, mais pas être gêné. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire d'autre? Hein? Il y a des timides là. Hein? Bon, montez pas dans les arbres pour écouter la réunion. Hein? Mais voyez que, oui, je le pense aussi qu'il n'était pas forcément que de petite taille et qu'il l'empêchait de bien voir. C'est sûr que c'est pas évident que d'arriver et d'être sous peut-être les feux des projecteurs. D'être peut-être rendu vraiment en premier lieu, en évidence dans ce moment-là. Il voulait scruter, il voulait observer, il voulait voir. Alors on aurait pu peut-être dire, et autrement, peut-être qu'il avait honte. Peut-être qu'on aurait honte de dire, voilà, de parler de Jésus, c'est un peu délicat, quoi. Peut-être pour des jeunes, parler de Jésus, la réunion, la prière, la lecture de la Bible... On aurait peut-être autre chose à vouloir mettre en avant, voyez-vous. C'est certainement ce qui pourrait être légitime. Cet homme semblait heureux, il semblait n'avoir besoin de rien, et pourtant il était quand même là, dans cet arbre-là, et il avait besoin de voir. Il avait besoin de voir. Et puis je pense que Jésus a su le prendre de la bonne manière. Oui, parfois on peut éprouver... Voilà, de la différence, de la honte, pas être forcément à l'aise. Mais c'est pas pour autant que Jésus va faire défaut. C'est pas pour autant que Jésus va lui rendre la monnaie de sa pièce. Et c'est merveilleux l'évangile. Parce qu'on voit que Jésus est toujours là. Et il saura toujours te prendre de la bonne manière. Et merci Seigneur, parce que cela rejoint aussi ce que j'aimerais aborder. Eh bien, c'est ce thème, on pourrait dire, je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Vous êtes toujours là? Alléluia. C'est une bonne chose. Mais comment faire pour pouvoir ne pas avoir honte? Parce que tout d'abord, il faut regarder un exemple concret. Il faut regarder l'exemple de Zachée. Et c'est que, en fait, il était dans l'arbre, et on y reviendra un peu plus tard, vous verrez. Il était dans l'arbre, et de là, En fait, s'il était vraiment à distance, s'il observait, Jésus s'arrête, le regarde et lui dit « Zachée, il faut que tu descendes de l'arbre. Il faut que j'aille aujourd'hui dans ta maison. » Et Zachée, il aurait pu dire « Ah non, non, pas chez moi. Hein. Ah non, comme on dirait un ado, non, non, tu rentres pas dans ma chambre. Non, non, faut pas que tu vois. Faut pas que tu vois ce qui se passe. » Eh bien, il n'a pas eu honte, il a reçu Jésus. Et oui, Jésus va même chez lui. Voyez ce progrès, voyez cette marque, cette démarche qui est vraiment totalement différente. Et j'aimerais retenir aussi, ajouter à ce qu'on peut partager ce soir, c'est aussi deux déclarations de l'apôtre Paul qui le caractérisaient. Dans ce sens-là aussi, le premier texte qu'on peut lire, c'est 1 Corinthiens 9,16. Elle disait « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Il ne pouvait pas s'en défaire. C'est comme si Jésus qui était rentré chez lui, il ne pouvait pas s'en défaire. Il était toujours au contact de l'Évangile. Et puis il se devait, et ce n'était pas l'obligation, la contrainte, mais il devait le dire. Et il dit, je ne le fais pas parce que ça m'est imposé, mais il dit, mais j'ai le cœur qui partage, j'ai le cœur qui doit dire, qui doit transmettre, et c'est une déclaration, je ne peux pas garder, je ne peux pas le tenir pour moi, c'est comme quelque chose à transmettre, quelque chose à dire, à relayer, à transmettre à quelqu'un d'autre. Et voyez-vous, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça ne se garde pas pour soi, parce qu'on est tellement heureux de l'avoir. Et on est tellement heureux de l'avoir qu'on veut le partager. Et c'est ça ce qu'il dit. Je ne peux pas. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'était un enseignant, mais il faisait, comme il avait dit à Timothée, il faisait aussi l'œuvre d'un évangéliste. Et il avait ça sur le cœur. Et on le comprend. On ne peut pas taire la voix de Dieu. Quand Dieu se choisit ses messagers, porteurs d'un message, inspiré, inspirant et libérant, oui, la volonté de Dieu dans une génération, dans des vies. Peut-être sur une petite parole, peut-être sur un prospectus, sur une parole, on peut venir dans ce lieu-là. Et puis, il y a eu quelque chose qui nous a tenus, qui nous a engagés, et qui nous a saisis. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Oui, l'Évangile, son impact... Et puis qui va démontrer son efficacité encore dans notre génération. Deuxième chose, et deuxième déclaration que Paul disait, et ça c'est ce texte clé, Romains 1,16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra » par la foi. Amen. » En fait, il a vu Dieu à l'œuvre. Et lui, il sait de quoi il parle, Paul, parce qu'il était opposant au départ. Donc, il n'était pas fait pour vivre et dire ce qu'il avait l'habitude et toujours entendu, mais il était complètement opposé. Parfois, on a été opposé par nos vies, par notre passé, par notre ignorance, par notre folie, notre désobéissance. On a pu être totalement à l'opposé, mais ce n'est pas ça forcément le problème. C'est que l'Évangile puissance de Dieu vient pour transformer et nous aider à vivre, oui, à vivre et à saisir. Et il dit, mais je n'ai point honte de l'Évangile. Il m'a tiré d'affaire. Il m'a sauvé, comme Zachée pourrait nous le dire. Jésus est rentré chez moi, mais je ne le regrette pas. Même les autres, ils pouvaient me critiquer, ils pouvaient dire des choses de moi. Peu importe, ça les regarde, mais moi, je suis le plus heureux des hommes. J'ai reçu Jésus dans ma maison. Alléluia! J'ai reçu Jésus chez moi. Et c'est merveilleux parce que Paul, il trouvait sa force dans le message de l'Évangile qu'il ne pouvait pas contenir. Il n'en avait pas honte. Et pourquoi il était si courageux? Eh bien, parce qu'il en a été bénéficiaire de la grâce qu'il a été faite. Oui, parce qu'il le disait lui-même. Il se sentait indigne parce que il avait persécuté l'évangile de Christ. Il avait persécuté les chrétiens. Il s'était opposé. Il leur avait dit, mais non, c'est pas ça. Mais non, faites pas ça. Mais non, ne vivez pas avec Jésus. C'est des hérésies. C'est de la folie. C'est pas ça. Et puis, il s'opposait volontairement et violemment. Il faisait même enfermer les chrétiens. Et après, il y a eu un volte-face. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus s'est révélé à lui. Et là, après, eh bien, croyez-moi, plus belle que jamais, eh bien, il est là et convaincu. Et alors, on n'a pas le temps de lire les textes, mais il a été bénéficiaire de la grâce de Dieu dans sa vie. 2 Timothée 1,8, il dit « Je n'ai point honte du témoignage ». 2 Timothée 1,12, il dit « Je n'ai point honte de mes souffrances ». 2 Timothée 1,16, il dit « Je n'ai point honte de mes chaînes ». Donc, ça veut dire qu'en fait, à recevoir Jésus, à recevoir l'Évangile, ne nous tire pas forcément d'affaires, ne nous tire pas forcément de les difficultés, de l'épreuve, de la maladie, de la souffrance. Par contre, il dit, je n'ai pas honte du témoignage, je n'ai pas honte de mes souffrances parce que c'est pour Christ, et je n'ai pas honte de mes chaînes parce que je suis tenu pour Jésus. Il était retenu en prison, il était captif, mais en fait, il était en prison, mais c'était le plus libre de tous les hommes. Parce qu'il avait le message libérateur. Et c'est ça. On peut être enfermé dans la prison des hommes. Mais Jésus, il libère des prisons. Et Jésus libère et il sauve. Merci Seigneur. Et il le dit bien. Il le dit bien. Je n'ai point honte de l'Évangile. Alors arrêtons-nous un peu pour réfléchir. Mais c'est quoi ce sentiment de honte? C'est quoi ce sentiment qui pourrait tous nous arriver? Qui pourrait toutes nous atteindre et être notre lot à tous? As-tu honte de l'amour de Dieu? As-tu honte de témoigner? As-tu honte de partager? As-tu honte peut-être devant ta famille, peut-être devant tes collègues, peut-être devant une situation quelconque, de dire mais qu'est-ce qui pourrait être ce sentiment qui pourrait monter là et qui pourrait me faire du tort? Eh bien, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. On parle de couvrir quelqu'un de honte, sans mal à l'aise, il y a un mal-être. Ou alors d'avoir commis une action indigne de soi, ou d'avoir la crainte de subir le jugement défavorable suite à des actions. Et puis il y a une expression qui revient souvent, on dit parfois rougir de honte. Ça vous est déjà arrivé ça? Vous êtes pris comme sur le vif. et là, vous, c'est pas vous pâlissez, mais voilà, vous rougissez. Alors, il y en a, ça se voit pas sur leur visage, hein, parce qu'ils ont le teint assez mat. Mais voyez-vous ce sentiment de honte? Et le texte de Romains 1,16, je l'ai retrouvé dans la traduction Jérusalem, lorsqu'il avait dit « Je n'ai point honte de l'Évangile », vous vous souvenez? Il dit « Car je ne rougis pas de l'Évangile. Il est la force de Dieu pour le salut de tout croyant. Je ne rougis pas de l'Évangile. » En fait, c'est le plus heureux comme ça. C'est le plus heureux de tous les hommes. Et oui, parce que l'Évangile ne nous fait pas rougir. L'Évangile, parfois, nous fait pâlir. Oui, parce qu'on peut pâlir, oui, devant l'immensité de l'amour de Dieu. On est confondu, on est émerveillé. Mais c'est vrai que cet amour est si fort qu'on ne doit pas, tout au moins on ne devrait pas, en avoir honte. Et on pourrait même se dire, mais comment se comporte quelqu'un qui aurait honte? Une personne qui éprouve la honte aurait une tendance à nier, un peu comme, vous vous souvenez de Pierre, et quand Jésus lui a dit, tu vas me renier 3 fois, mais non Seigneur, c'est pas possible. Et puis quand on va lui poser des questions, il a une tendance à cacher. Ou voilà, essayer d'embrouiller, hein, essayer de faire peut-être des grandes phrases, etc., de meubler, hein, et dit non, je le connais pas. Et une fois, 2 fois, 3 fois, et le coq chante. Paf, il se dit là, je suis tombé dans le panneau. Ça vous est arrivé de tomber dans le panneau? Eh oui, des fois, mais il faut s'en relever. C'est pas l'aboutissement. Et tendance à nier l'objet de sa honte. Et puis, regarder quelqu'un qui a honte, ça se voit, en fait. Et ça a une tendance à accentuer encore plus le sentiment. Parce que t'es pris en sentiment de honte, tu vas rougir, et puis on te regarde, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Et puis ça va accentuer, n'est-ce pas? Ça va accentuer, tu vas dire, c'est bon, vas-y, laisse-moi. Et nous, comprenons que Paul n'a pas honte de l'Évangile, Zachée encore moins. Et n'a pas honte de l'Évangile, quoi qu'il arrive, Christ, pour lui, était glorifié. Philippiens 1:20 dit « Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'ai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Alléluia. Quelle déclaration de foi! Quelle déclaration de foi! Il dit « Mais j'ai honte de rien, même si... » Vous savez que Paul, il avait aussi ses limites. C'était qu'un homme. Il avait ses limites, ses difficultés. Il avait son lot qui était le sien. Mais dans tout cela, c'est comme si que, à partir du moment où il a reçu Jésus, il pouvait pas regarder le chemin en arrière et dire « J'en ai honte ». J'éprouve de la honte de tout cela, mais bien au contraire, et bien plus fort, et bien plus digne pour plaire à son Seigneur. Il proclamait l'Évangile, il vivait l'Évangile, et sa vie était devenue différente parce qu'il avait capitulé devant Jésus, il a réalisé qu'il avait fait affront à Jésus. Il avait fait même honte à Jésus. Oui, mais sur ce chemin de Damas, c'était le chemin du demi-tour. Sachez que le demi-tour est possible. Le demi-tour est possible, il est envisagé de Dieu, peut-être pas forcément envisagé de nous, parce que nous on aurait honte, on voudrait se cacher dans le trou d'une souris, on voudrait peut-être comme une autruche, on aimerait se dire c'est pas possible, à partir de là ça semblerait s'arrêter, mais non, justement, le Seigneur a plus encore à nous faire connaître. Le chemin de Damas c'est le chemin d'un changement, de continuer, on pourrait dire un demi-tour dans ses dispositions, son cœur, ça repentance, une vie nouvelle, découvrir que Jésus lui a tendu une main merveilleuse. Alors c'est vrai que auparavant il ne tolérait pas le nom de Jésus, et l'ayant rencontré, quand il est tombé à terre devant cette lumière éclatante, et alors qu'il faisait plein jour, il dit « Mais qui es-tu Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Ah, il a dû rougir, hein. Croyez-moi, il a dû rougir. A dû sortir certainement mal à l'aise. Mais par contre, maintenant qu'il avait rencontré Jésus, ce nom-là, il ne pouvait plus le taire. Il ne pouvait plus le taire. Et ça fait partie des déclarations de Paul. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Il faut leur dire. Il faut témoigner. Il faut transmettre. Il faut communiquer. Il faut répandre le bon parfum de l'Évangile, de la bonne nouvelle, du pardon et d'une vie qui est digne d'être vécue. Merci Seigneur. Oui, il avait ce nom qu'à la bouche et on ne pouvait plus le taire. Romain, il le dira dans Romains 1er, chapitre 6, verset 21. Il dit, mais quel fruit portions-nous alors des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? La fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est beau de voir ce qui s'est passé quand même. Ce qui s'est passé dans le cœur de Paul, parce que c'était tout l'envers, et même à l'envers dans sa vie, même lui, certainement qu'il ne s'y retrouvait pas. Mais il l'avait dit aux Corinthiens, nous rejetons les choses honteuses qui se font dans le secret. Il y a des choix à faire, il y a des dispositions qui se prennent, et merci Seigneur pour sa victoire. Il est honteux de dire ce qu'ils font dans le secret, Éphésiens 5:12, Romains 1:26, Dieu les a livrés à des passions honteuses. Parce que le péché nous fait toujours du tort. Alors si nous éprouvons de la honte de nos péchés, alors nous sommes sur la bonne voie. Par contre, si nous rions et nous levons le bras pour se rire et ricaner, cancaner, peut-être de notre passé et puis minimiser nos faits, eh bien il y a peut-être à s'inquiéter quand même. Il y a à s'inquiéter parce que Dieu se trouve dans la vérité d'un cœur. Lorsqu'il capitule, lorsqu'il vient et reconnaît qu'il a vraiment besoin de Jésus. Oui, c'est vrai que Dieu n'en a rien à faire des orgueilleux. Il les laisse mijoter, parce que viendra un moment où ils auront honte pour l'éternité. Et donc, ceux qui savent se prosterner, revenir, comme Paul a pu capituler, oui, devant le Seigneur, pour lui dire, mais Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de ton être, de ton secours, de ta visitation, Seigneur. Parce qu'il faut quand même se dire, au niveau où on en arrive maintenant, c'est que Jésus n'a jamais eu honte de qui que ce soit. Et oui, c'est quand même une vérité. Jésus n'a jamais eu honte d'enseigner. Eh oui, il a jamais, voilà, il a jamais éprouvé peut-être un malaise. Et pourtant, avec parfois même des religieux qui ne comprenaient pas, qui ne voulaient pas comprendre, Jésus n'a pas eu honte de défendre le pécheur, la pécheresse. Il n'a pas eu honte de s'arrêter pour eux, de les défendre et d'être seul contre tous, vous vous rendez compte ? Il aurait pu ravaler sa salive et dire « Bon, sur cette affaire-là, je vous laisse faire et moi je m'en vais !» Mais non, y a-t-il quelqu'un qui parmi vous aurait péché, n'aurait pas de péché, qui lui jette le premier, la pierre ? Jésus n'a pas eu honte de nourrir une foule, il était dans le besoin. Jésus n'a pas eu honte de ses disciples et pourtant, il n'a pas toujours été clean, hein, il n'a pas toujours été formidable. Hein. Jésus n'a pas eu honte de secourir le gadarénien, ce meurtrissier, il était tout nu au cimetière, pour s'aider. Certainement, il aurait mis un petit peu de bruit. Hein. Et mais Jésus n'a pas eu honte. Jésus n'a pas eu honte de leurs erreurs. Même Jésus a même accepté le reniement de Pierre. Il ne va pas lui faire la morale. Et aussi la folie de Jacques et de Jean, eh bien, qui voulaient être à sa droite, une pole position, et dans tout cela, mais Jésus n'a pas eu honte. Jésus n'a pas eu honte du baiser de Judas. Il s'est laissé embrasser. Voyez-vous ? Ah ben avec tout ça, Jésus n'a pas eu honte de Zachée, parce que Zachée, pour ceux qui ne le savent pas, il signifie pur. Et puis il était impur dans toutes ses affaires. Donc c'est vrai que c'est un comble d'avoir un nom qui ne correspond pas à la vie. Par contre, Jésus a remis les choses en place. Jésus lui a rendu sa pureté, lui a donné cette pureté qu'il ne pouvait pas saisir par lui-même. Merci Seigneur. Et puis le comble de tout ça, bien aimé, il faut le dire, Jésus n'a pas eu honte de mourir à la croix pour toi, pour moi. Jésus n'a pas eu honte de dire « je le fais ou je ne le fais pas ». Et j'accepte de mourir ou j'accepte pas de mourir. Et puis cet homme à côté de lui à la croix, il dira, mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui, il éprouvait la honte du remords. Et c'est à partir de là que Jésus a pu lui dire. Avant, il ne pouvait pas, tant qu'il ne lui a pas dit. Eh bien, Jésus lui a dit, eh bien, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. À l'époque, c'est extraordinaire. Alors, avec une telle déclaration, il n'allait certainement pas avoir eu honte d'avoir demandé à Jésus un petit coup de main. Vous ne voyez pas que dans la vie, parfois, on a besoin d'un petit coup de main. On a besoin de Jésus. Mais que Jésus n'a pas honte de nos problèmes, n'a pas honte de nos péchés, n'a pas honte de nos torts, il n'a pas honte de nos maladresses, il n'a pas honte de notre mauvais caractère, il n'a pas honte eh bien, de nos coups cachés, de nos attitudes. Jésus n'a pas honte quand même nous aurions renié, rejeté, repoussé le nom de Jésus. Jésus n'aurait pas honte, mais par contre, il nous tend la main encore aujourd'hui. Il donne la possibilité de dire oui, eh bien Seigneur, tu es là, j'ai besoin de toi. Et c'est vrai que si Jésus n'a pas eu honte, et nous aurions honte de Jésus ? Il y a un truc qui ne colle pas, là. Croyez pas ? On aurait honte de Jésus, de son amour. On aurait honte de s'engager au travers des eaux du baptême. On aurait honte de confesser son nom. On aurait honte de prier. On aurait honte de pouvoir parler peut-être à quelqu'un, peut-être que Dieu mettrait sur notre chemin. On serait mal à l'aise, on va rougir. Non, non, il ne faut pas se laisser prendre par ce genre de piège, mais plutôt dire, Seigneur, je réalise la grâce qui m'est faite. Le privilège qui m'est donné, c'est de t'avoir. Et si on m'enlève beaucoup de choses dans la vie, c'est une chose, mais si on nous enlève Jésus, alors c'est sûr, on est les plus malheureux. Alors vous savez qu'il y a la persécution par toute la terre, justement, et pour le nom de Jésus. Et souvent, ils n'en ont pas honte. Ils vont jusqu'au bout et l'ultime moment, peut-être, du sacrifice même de leur vie et des coups qu'ils pourraient prendre. Mais lorsque nous recevons Jésus, nous ne pouvons pas éprouver de la honte. Quand bien même il y aurait difficulté, il nous accompagne. Alléluia. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un te demande raison de la foi qui est en toi, comme il est dit dans 1 Pierre 3,14, n'ayez donc d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience afin que là, même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couvert de confusion, car il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Amen. J'aimerais, pour terminer, vous parler du double positionnement. Parce que nous voyons ce que Jésus a fait, voyons ce que Zachée a pu vivre, voyons voilà, la direction. Mais il y a un double positionnement, c'est-à-dire qu'il y a notre positionnement personnel, puis il y a le positionnement de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. L'un dépend de l'autre. Attention, hein, l'un dépend de l'autre. Et donc, Zachée, moi je voulais vous dire, à mon avis, il n'a pas eu honte deux fois. Il a eu honte une fois, lorsque Jésus est entré chez lui, alors là, croyez-moi, c'était la victoire. Hein. C'était la victoire. Ah oui, les autres pouvaient dire, hein, pouvaient cancaner, dire beaucoup de choses derrière. Mais alors là, croyez-moi, Jésus, lorsqu'il est rentré chez lui et il lui a donné ce privilège, cet honneur d'entrer dans sa maison, dans son cœur, dans ses affaires, et en fait, même dans ce qu'il dit, c'était par rapport à la loi. Il se remet d'équerre, on pourrait dire. Il se remet d'aplomb, il se remet en place. Et il dit, mais moi, c'est terminé. Et Jésus, avant, j'étais sur les arbres. Maintenant, Jésus, je l'ai à la maison. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. C'est ça le meilleur. Oui, parce que combien vont rester dans leur arbre ? Combien vont rester perchés pour essayer de voir, d'analyser, de percevoir, d'entendre, de voir sans trop s'engager ? Combien vont rester un petit peu sur le bord ? Mais voilà que Jésus a toujours, et la manière de faire, c'est de s'arrêter et de dire à Zachée, « Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure dans ta maison. » Jésus peut pas te laisser tranquille. Son amour est tellement plus fort. Son amour est tellement plus grand, merveilleux pour toi. Il peut pas te laisser. Ça serait de l'indifférence de sa part. Mais son appel, son amour, son insistance reviendrait à te laisser libre, mais encore te donner l'opportunité de dire oui, Seigneur, c'est vrai que tu as raison, tu t'arrêtes. Je descends de mon piédestal. Je descends peut-être de mon autosuffisance. Ah, je descends peut-être aussi de mon constat, de mes petits regards, voilà, j'y fais, et voilà, je regarde, j'ai une attention là, mais je vais pas plus loin. Voyez-vous ? Eh bien, Zachée, dites-moi, eh bien, il n'a pas eu honte deux fois, mais qu'une fois. Merci Seigneur. Romains 16 dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ben oui, c'est sûr, entre les moments présents, peut-être faciles, difficiles sur cette terre, mais qu'est-ce qu'il y a comme comparaison avec l'éternité ? Si Dieu t'ouvre ses bras, vas-tu refuser ? Si Dieu te tend la main pour l'éternité alors qu'on a peut-être quelques années de difficultés, alors cela, eh bien, n'a pas d'égal, eh bien, de le savoir pour nous à l'éternité. De Timothée 1,12, eh bien, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Oui, il avait dit, aussi au jeune Timothée, parce que il se déversait d'une certaine manière sur le jeune Timothée, de ce qu'il avait appris, il lui transmettait, étant beaucoup plus jeune. Et il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Amen. Vous savez que quand on prend position, Dieu nous voit. C'est important à dire. C'est important parce que Dieu nous voit, il sait toutes choses, on n'aura pas le temps de tout voir, mais lorsqu'on fait un pas, Dieu il en fait un. C'est le double positionnement. Il y a le mien, mais il y a le sien. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Oui, ce positionnement pour eh bien, faire de nous une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Romains 10, qui nous parle aussi eh bien, de cette parole, on s'approprie personnellement. Il faut confesser le Seigneur de ta bouche. Pas seulement dans notre intellect, mais confesse-le de ton cœur, de ta bouche. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Alors, il est important de dire tout ça parce que quand même, on ne peut pas minimiser cette affaire-là. Le double positionnement est important parce que de mon positionnement dépendra le positionnement de Dieu. Vous allez me dire, mais Dieu n'est pas assez grand pour faire ce qu'il veut. Non, ça dépend de ton choix, ta décision. Si tu ne fais pas choix de prendre Jésus, bah Dieu dira non, ben non, je ne le connais pas, ou je ne la connais pas. Elle m'a ignoré, elle m'a méprisé, ou elle a eu honte de moi. Vous voyez, ça serait dommage d'être sur l'arbre, comme Zachée, d'entendre parler de Jésus, et puis à la finale, de ne pas le recevoir à la maison. Ça serait dommage de l'avoir vu, l'avoir observé, l'avoir entendu, de dire « Non, Seigneur, je suis bien là, je suis bien là, tu ne vas pas venir à la maison. » Mais quand Jésus rentre à la maison, ça change tout, ça fait tellement de bien. Et voyez-vous, parce que tout est enregistré dans son livre de vie. Tout est entendu, tout est connu de lui. Et c'est vrai qu'on peut oublier des choses, mais lui, il sait où on en est. Et est-ce que tu as dit oui à son amour? Est-ce que tu as dit oui à son pardon? Est-ce que tu as accepté de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi parce que moi, je ne peux pas suffire devant toi. » Et l'avertissement de Jésus, il est quand même bien écrit. Marc 8, 38, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc c'est formel, c'est quand même dit et clair. Donc c'est important, ce positionnement, le Seigneur le prend lorsque nous prenons position pour lui. Et dans Apocalypse 3, 14 à 20, et c'est quand même dit, Jésus a appelé le témoin, le fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi que, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu sais pas que tu es un malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, que tes vêtements soient blancs, tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Amen. L'impression, il s'adresse à Zachée là. Dans l'impression que c'est le même contexte. Eh bien, aurais-tu honte de tes péchés? C'est une bonne chose. Jésus pardonne. Aurais-tu honte de Jésus? Ça serait malencontreux, ça serait malheureux, parce que ça risquerait de nous causer des problèmes. Alors oui, il est important de se positionner. Oui, car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi elle n'a pas honte de les appeler frères. Hébreux 2, 11. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai que Dieu n'a pas honte non plus d'être appelé leur Dieu parce qu'il nous prépare une cité. Voyez-vous ? Et je termine avec cette image dans Matthieu 5, 15. Quand il est parlé d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, et dit on ne met pas une lampe sous le boisseau, on ne la cache pas en fait. Il faut que la lumière, elle éclaire. Oui, bien que, il y a aussi des réalités comme cela. C'est le boisseau, c'était comme un récipient, on le cachait par en dessous et il couvrait de manière à ce que la lumière ne sorte pas. Mais il faut que ça puisse apparaître au grand jour, au public, et non rester dans l'ombre. Comprenez ce que ça veut dire? Ça revient dans le même sens. Ou mettre quelque chose sous le boisseau, c'est dans le sens de dissimuler la vérité. N'aie point honte de son amour, n'aie point honte de sa lumière, n'aie point honte de son éclairage. Et c'est vrai que cette expression que Jésus employait, c'est quand même important parce que on peut pas cacher les bonnes œuvres, ni s'abstenir de parler, de transmettre, de communiquer l'amour de Dieu, le témoignage que Dieu dépose dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous voyons que, oui, il n'a pas caché aux hommes sa vérité. Jésus n'a pas caché l'éclairage, la lumière qu'il est venu donner aux hommes. Alors voyez-vous, comme Paul l'a dit, et je termine avec cela, je n'ai point honte de l'Évangile. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voyez-vous, c'est à la disposition de tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent croire, tous ceux qui veulent continuer de croire, la puissance de Dieu. Alors c'est vrai, quand Dieu est à l'œuvre, c'est bon de le voir. Et on ne peut pas rougir, parce que Jésus pardonne les péchés encore aujourd'hui. Jésus guérit encore les malades. Jésus est capable de relever, de sortir de la déprime et de la difficulté, de la détresse, de la solitude, du désarroi, de toutes sortes de difficulté qui est là. Jésus sait toujours, et quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. À son nom béni soit toute la gloire. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ces quelques paroles qui nous rappellent que notre part est notre privilège, Seigneur, il nous est donné en toi. Merci pour Zachée, tu as su t'y prendre avec lui, tu as su faire tes œuvres. Merci pour Paul aussi, qui est devenu vraiment prédicateur de l'Évangile, qui lui-même, et Seigneur, n'avait point honte, c'est vraiment que de belles images. Et toi-même, mon Seigneur, qui as fait toutes choses parfaites en ton temps, tu as su, Seigneur, oui, intervenir et faire les choses, non pas par la contrainte, par la force, mais tu as gagné les cœurs, tu as relevé des situations, tu as pu toujours agir, oui, avec bonté, avec fidélité. Merci Seigneur, enseigne-nous dans cette période d'été encore d'être des témoins, d'être sel, lumière, d'être des moyens dans tes mains pour dire combien le Seigneur nous aime, combien le Seigneur est bon, combien nous avons goûté et que le Seigneur est notre victoire. Merci, merci d'être là, de te tenir au milieu de nous. Et Seigneur, nous voulons nous positionner pour toi. Nous voulons te dire oui Seigneur, viens, viens dans ma maison, viens dans mon cœur, viens encore faire là toute ta volonté. Seigneur, nous te rendons grâce et nous prions que ta parole dans nos cœurs et par l'action de ton esprit, elle puisse porter du fruit. Oui, donne-nous, Seigneur, de ne point avoir honte, mais donne-nous de bien jauger, de bien peser. Et Seigneur, le privilège qui nous est fait, et Seigneur, de bien mesurer, de considérer la grâce de Dieu à notre endroit. Seigneur, merci de rendre fort dans la faiblesse. Et Seigneur, de nous donner, c'est vrai, de ne pas avoir honte une deuxième fois comme Zachée. Mais Seigneur, de pouvoir continuer et de marcher pour t'être agréable. Seigneur, la vie avec toi est vraiment merveilleuse à vivre. Et nous te remercions d'être là au milieu de nous. Merci de porter assistance. Merci de donner ton secours. Merci de donner ta présence. Tu es merveilleux dans toutes tes œuvres et nous te bénissons, Seigneur, encore ce soir. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, ce que tu feras. Nous t'en bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen.